Les leçons du Collège de France.
La chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt est une chaire annuelle qui a été créée en 2007 par le Collège de France en collaboration avec la Fondation Bettencourt-Schuller. J'ai le plaisir de saluer la présence parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cette leçon inaugurale, Madame Bettencourt-Meyers et Monsieur Meyers. Le Collège de France invite chaque année, donc dans le cadre de cette chaire, une personnalité scientifique pour y donner un cours sur un aspect majeur de l'innovation technologique. Il peut s'agir de l'élaboration de nouveaux procédés industriels issus de recherches fondamentales, du transfert du savoir scientifique aux applications industrielles ou de la création d'entreprises de type start-up permettant de commercialiser ces applications. Pour ne citer que quelques exemples, des liens essentiels tissés entre l'élaboration de la connaissance scientifique et des applications qui bien souvent ont révolutionné notre vie quotidienne. Les précédents titulaires de ces chaires nous ont parlé de recherche sur les médicaments, de révolution numérique, de nouveaux procédés de diagnostic industriel ou médical, de nanotechnologie et d'innovation biomédicale. Aujourd'hui, c'est donc de l'élaboration des matériaux dont Yves Bréchet va nous parler en introduction à son cours intitulé « La science des matériaux, du matériau de rencontre au matériau sur mesure ». L'importance des matériaux nouveaux qui sont apparus et développés depuis un siècle dans notre vie quotidienne est évidente, qu'il s'agisse des semi-conducteurs qui sont essentiels à l'électronique, des fibres optiques et des verres, des composants de l'automobile ou de l'aéronautique, des métaux utilisés dans les centrales nucléaires ou des objets nanométriques développés pour les applications biomédicales. La mise au point d'un matériau nouveau passe par l'étude de ses propriétés, la compréhension de sa structure et l'élaboration de méthodes efficaces pour les préparer. C'est un domaine évident où recherches fondamentales et appliquées sont étroitement imbriquées. C'est également un domaine interdisciplinaire par excellence puisque cela demande à la fois des compétences du physicien, du chimiste, voire du biologiste sur le plan fondamental et celles de l'ingénieur pour conduire de la recherche aux applications. Au Collège de France, qui est une institution qui pratique par excellence la pluridisciplinarité, plusieurs chaires récentes se sont intéressées ou s'intéressent actuellement au problème des propriétés de nouveaux matériaux sous l'angle de la recherche fondamentale. Je rappellerai que Pierre-Gilles de Gennes a été un des pionniers de la physique des cristaux liquides et des polymères. Jacques Livage est un des pères de la chimie douce, cherchant à fabriquer des matériaux bio-inspirés sur le modèle de ceux que la nature élabore à basse température, comme les coquilles des animaux marins. Et Antoine Georges est actuellement titulaire d'une chaire qui s'intéresse à la structure de matériaux complexes, telles les fameuses céramiques aux propriétés supraconductrices à haute température, qui posent encore des problèmes théoriques non résolus aux physiciens. C'est dire que le Collège de France est l'endroit idéal pour accueillir une chaire d'innovation technologique s'intéressant à la façon dont les recherches fondamentales sur ces matériaux cruciaux pour le développement de notre mode de vie finissent par aboutir à des applications et à des utilisations concrètes. Yves Bréchet, vous êtes certainement le scientifique idéal pour occuper cette chaire et nous parler des nouveaux matériaux sous les différents angles que j'ai évoqués. Ancien élève de l'École polytechnique, vous avez été orienté vers la science des matériaux par notre collègue Yves Quéré. Vous avez obtenu votre doctorat de l'Université Joseph Fourier de Grenoble, où vous êtes devenu professeur avant de devenir membre de l'Institut universitaire de France. Votre spécialisation dans le domaine de la modélisation des matériaux, et plus particulièrement des métaux et des alliages, vous est venu d'un goût prononcé pour l'interdisciplinarité et de votre volonté de combiner la recherche fondamentale avec une vision d'ingénieur. Vos travaux ont eu comme point commun d'extraire des questions industrielles les verrous scientifiques essentiels qui nécessitent une recherche fondamentale pour progresser dans le développement de matériaux de plus en plus performants. Théoricien et spécialiste de modélisation numérique, vous êtes toujours resté en contact étroit avec les expérimentateurs et les ingénieurs. Votre notoriété, qui vous a valu d'être nommé comme conseiller scientifique de nombreuses entreprises industrielles privées et d'établissements de recherche publique, a été reconnue en 2010 par votre élection à l'Académie des sciences. Vos études sur le vieillissement des matériaux, en particulier celui des métaux qui sont utilisés dans la construction des centrales nucléaires, ont été particulièrement appréciées par le CEA. C'est sans doute l'une des raisons de votre nomination en septembre dernier comme haut commissaire à l'énergie atomique. Il s'agit là d'un poste de très grande responsabilité auquel vous avez accédé après que le Collège de France vous ait proposé d'occuper cette chaire donc d'innovation technologique. Et nous vous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir maintenu votre engagement à effectuer cet enseignement malgré les grandes responsabilités que vous devez maintenant assurer. Donc je suis heureux de vous donner la parole pour cette leçon inaugurale.
Merci. Monsieur l'administrateur, messieurs les professeurs, chers collègues, monsieur et madame Bettencourt-Meyers, chers amis, mesdames, messieurs, je suis très reconnaissant de la confiance que le Collège me fait en me nommant à cette chaire annuelle d'innovation technologique. Et je suis conscient de l'honneur qui m'est fait et intimidé par la charge. Il est intimidant d'avoir à enseigner à tous la science en train de se faire dans quelques disciplines que ce soit. D'être à ma connaissance le premier métallurgiste invité depuis 1530 à le faire ne fait rien pour détendre l'heureux élu. La chaire Liliane Bettencourt sur l'innovation technologique est un pari audacieux de rapprocher la science en train de se construire de la technologie en train de se faire. Quand Pierre-Louis Lyons a prononcé mon nom, il ajoutait à sa singularité dans le paysage académique français le fait de demander à un scientifique des matériaux, discipline qui n'existe pas en France en tant que telle, et qui plus est des matériaux de structure, matériaux si familiers qu'on les considère habituellement comme une donnée de notre quotidien et non comme un objet de recherche, et circonstance aggravante à un métallurgiste, discipline dont on parle quand il s'agit de repeindre en verre les hauts fourneaux de Florange, il pensait sans doute au mot de Bourdieu qui disait « je crois que le collège sacralisait les hérétiques ». Ma tâche ce soir est de vous convaincre que les matériaux de structure en général et les alliages en particulier sont une formidable source d'innovation technologique et une mine de questions scientifiques profondes. Je ne vous cache pas que je suis particulièrement impressionné d'avoir à donner cette leçon inaugurale. Il est rare, sauf cas de schizophrénie avancée, de donner des cours au rayon de sa bibliothèque. C'est pourtant cette étrange sensation que j'ai eue en regardant la liste de mes illustres confrères. Soit que j'ai suivi leurs cours ou appris la physique et la chimie dans leurs livres, comme pour Philippe Nozière, Claude Cohen-Tanoudji ou Jean-Marie Laine, soit que j'ai eu à les fréquenter dans des commissions d'évaluation, comme Pierre-Louis Lyons ou Jacques Livage, soit que j'ai eu une admiration profonde pour leurs travaux, pour ceux qui sont de ma génération, comme Marc Fontcave, Clément Sanchez, Stanislas Dehaene ou Jean-Marie Tarascon. Ou enfin, parce que depuis mon adolescence, je me suis nourri de leurs livres sans les avoir jamais rencontrés en personne, comme Jean Delumeau, Jacques Bouvresse, Paul Veyne, Jacques Gernet, Yves Bonnefoy, François Jacob, Emmanuel Leroy Ladurie. Je serais heureux si, à l'issue de cette leçon inaugurale, j'ai pu leur rendre, en leur parlant d'une discipline qui n'est pas la leur, un peu du plaisir que j'ai eu à profiter de leur fréquentation livresque. Alors, le thème de cette leçon inaugurale, la science des matériaux, du matériau de rencontre au matériau sur mesure, je l'ai conçu comme une visite dans l'ensemble des matériaux, d'une part, et dans l'ensemble des cours qui vont suivre cette leçon inaugurale. Alors, on va juste commencer par ce simple diagramme. Alors, je ne vous demande évidemment pas de le lire, sinon on n'en sortira pas. Vous savez, comme moi, qu'on parle des âges des matériaux, en commençant par l'âge de pierre, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge de fer, l'âge de l'acier. On peut penser que la première moitié du XXe siècle aura été l'âge des polymères. Et peut-être peut-on penser qu'on est dans l'âge du silicium. Les révolutions technologiques sont rendues possibles par le développement des matériaux et des ressources énergétiques. On pourrait construire de la même manière un âge du four avec différents types d'énergie qui permettent d'élaborer les matériaux. Une chose qui est importante, c'est de retenir que l'on ajoute au menu des matériaux plus que l'on ne remplace. C'est-à-dire que le monde des matériaux s'enrichit au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Alors, le monde des matériaux, on a coutume d'avoir trois grandes familles, la famille des métaux et alliages, la famille des verres et céramiques, la famille des polymères et les astomères, ce à quoi vous pouvez rajouter les matériaux naturels, dont je vous parlerai en fin de leçon, et les mousses, qui sont des matériaux assez particuliers, qui sont de la matière plus rien. Ces différents matériaux peuvent se marier ensemble et donner des matériaux composites. Si je regarde ce diagramme-là, ce qui fait que tel ou tel matériau est dans telle ou telle bulle, dans tel ou tel ensemble, c'est la liaison chimique qui lie les atomes entre eux. Alors, on doit se poser la question de ce que nous dit la liaison chimique, mais ça n'est pas tout. Il faudra aussi se poser la question de ce que nous dit l'ordonnancement des atomes. Et vous verrez qu'une des caractéristiques de l'étude des matériaux, et notamment des matériaux de structure, est ce que nous dit les défauts dans cet ordonnancement. Alors voilà ce qui va nous servir de ligne de lecture, de fil rouge dans l'ensemble des cours. c'est partir du matériau de rencontre, c'est-à-dire la manière dont on était lié au matériau au tout début de notre histoire, et aller vers où on en est maintenant, qui est la logique du matériau sur mesure. Et cette évolution, au cours du temps, se traduit une exigence de multifonctionnalité croissante, mais voit aussi apparaître de plus en plus l'importance de la modélisation comme outil de fabrication d'idées ou de fabrication de matériaux. Alors, le plan de la leçon inaugurale sera le suivant. Je vais d'abord commencer par une étude rapide de l'évolution dans les usages des matériaux, et on va essayer de passer du savoir-faire à la science. Ensuite, je vous parlerai des stratégies de développement de matériaux à haute performance, et vous allez voir que ce que j'entends par matériaux à haute performance. On passera ensuite à l'idée d'aller vers des matériaux sur mesure, et nous verrons qu'une des manières d'aller vers des matériaux sur mesure, c'est aussi de réintroduire dans la conception des matériaux une vieille oubliée qui est la géométrie, et de voir comment associer les matériaux et la géométrie va permettre de construire des classes de matériaux nouveaux, qu'on appellera les matériaux architecturés, qui va nous ramener à l'idée de regarder aussi comment la nature essaye de fabriquer des matériaux bien adaptés à ses besoins. Alors, du savoir-faire à la science, les évolutions de l'usage des matériaux. Si on regarde au tout début, évidemment, le silex, qui est essentiellement une céramique, était déjà un matériau d'avenir. C'était la céramique, toujours d'ailleurs un matériau d'avenir. Les cartes que vous avez ici sont des cartes qui vont vous présenter les différents types de matériaux. Et comme je parle essentiellement de matériaux de structure, je vais parler d'une propriété de structure qui est la résistance mécanique de ces matériaux. Et on va mettre sur l'autre axe la densité. Ces axes sont logarithmiques pour vous montrer les différents ordres de grandeur dans lesquels on se trouve. Donc, le matériau silex, c'est le matériau qu'on trouve en se baissant. On le trouve ou on ne le trouve pas, d'ailleurs. On peut penser à tous les matériaux naturels. Vous voyez ici, dans les métaux qu'on trouve à l'époque préhistorique, vous n'avez qu'un métal parfaitement inutile et d'un manque d'intérêt total, qui est l'or, qui a l'énorme avantage d'exister à l'état natif. Si on va à l'étape suivante, si on regarde la période romaine, donc vous voyez, on est à peu près à l'époque de Jules César, on voit que les Romains étant les princes de la construction, on voit se développer beaucoup les céramiques et les verres, et quelques métaux nouveaux qui ne sont plus des matériaux à l'état natif, qui sont des matériaux à partir de l'oxyde du métal, on le réduit pour obtenir le métal. Si je continue ma progression dans le temps, arrivons à la fin du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge, le Moyen-Âge du point de vue de la science des matériaux, était très peu innovant en termes de matériaux nouveaux. Par contre, il était extrêmement innovant en termes d'utilisation des matériaux, en termes de mise en œuvre des matériaux. Alors, je vous ai mis ici trois cathédrales, la cathédrale de Reims, la cathédrale de ma ville natale, Clermont-Ferrand, et une église en bois de Norvège. Le thème que j'aurais envie de dire, c'est qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a, essentiellement. Et suivant le type de pierre qu'on a, suivant le fait qu'on a de la pierre ou du bois, on va utiliser le matériau qui est disponible. Continuons la progression vers le début du XXe siècle. Alors, le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, on peut dire que c'est vraiment l'âge de l'acier. C'est l'endroit où l'acier est devenu le matériau de structure essentiel, et je dirais que l'acier est au matériau de structure ce que le silicium est au dispositif. C'est vraiment le cœur de ces domaines industriels. Si on va un petit peu plus loin, jusqu'au milieu du XXe siècle, on peut dire que le plastique est apparu. C'est-à-dire, en même temps qu'on faisait une civilisation du pétrole, comme moyen de transport, comme énergie pour le transport, on faisait aussi une civilisation des produits dérivés du pétrole, des polymères, et on voit apparaître ces polymères comme des matériaux nouveaux dans ce panorama. Et là, maintenant, on va arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, c'est tout simplement, ça a explosé. Il y en a partout. Vous avez des métaux très variés, vous avez des céramiques, vous avez toute cette classe de matériaux qui sont les mousses, mousse de polymère, mousse de métaux, mousse de céramique. Vous avez évidemment tout ce qui est l'infinie variété des polymères et des élastomères, et en fait aussi les composites que l'on peut faire en ayant des renforts soit particuliers, soit fibreux à l'intérieur de ces matériaux. Alors, là, on se trouve devant une situation où, au fur et à mesure qu'on a rempli l'espace des matériaux, on paye le prix de ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire qu'on est placé devant l'embarras du choix. On est obligé de choisir le meilleur matériau possible pour un cahier des charges donné. Donc la situation actuelle, en ce qui concerne les matériaux de structure, c'est à peu près 50 à 80 000 matériaux disponibles pour l'ingénieur, à peu près 3 000 procédés de fabrication et de mise en œuvre. Une autre caractéristique, c'est qu'on a une situation qui est hautement compétitive entre les différentes classes de matériaux. Vous regardez n'importe quel domaine applicatif, regardez l'emballage, regardez l'automobile, regardez l'aviation, vous avez des compétitions absolument féroces entre les différentes classes de matériaux. Vous avez en même temps des exigences accrues dans les cahiers des charges. Et enfin, vous avez des nouvelles demandes de la société qui conduisent à avoir une force motrice de développement amplifiée. Donc vous allez pouvoir trouver là les demandes de sûreté, les demandes de santé, les demandes d'environnement. Donc on est devant une situation où à la fois on a enrichi l'ensemble de notre menu de choix, mais on se trouve confronté à l'embarras du choix. Alors, je voudrais juste faire un énoncé ici. Je pense qu'après une décennie idéologique de ce qu'on a appelé le fabless, on fait une industrie où on fabrique rien, les matériaux apparaissent maintenant comme un acteur majeur dans l'innovation technologique. Ce sont les matériaux qui rendent les choses possibles ou qui les condamnent à rester à l'état de rêve. Alors, trois révolutions pour cette science. Trois révolutions de base. La première, c'est le passage obligé par la microstructure pour comprendre et maîtriser les relations entre les procédés et les propriétés. Donc, le leitmotiv ici, l'idée sous-jacente, c'est la chimie ne dit pas tout. La composition d'un matériau ne nous donne pas l'ensemble de ses propriétés. Le deuxième point, c'est le rôle central des défauts microscopiques dans le comportement macroscopique. Les matériaux sont un peu comme les êtres humains, ils sont intéressants essentiellement par leurs défauts. Et ce rôle central des défauts vous dira que la physique ne nous dit pas tout non plus. On peut avoir un ordonnancement parfaitement régulier d'atomes dans un cristal métallique, ce qui va faire que ce cristal est capable de se déformer plastiquement et de ne pas rompre brutalement. Ça n'est pas cet ordonnancement parfait, c'est l'écart à l'ordonnancement parfait. Et le troisième point, la troisième idée force que je voudrais dégager, c'est qu'on a vu apparaître progressivement la valeur d'une approche comparatiste, aussi bien dans le choix des matériaux que dans le développement des matériaux. Alors, on va essayer de voir un peu sur un exemple très simple, qui est un mécanisme particulier qui change les propriétés d'un matériau, comment on est passé essentiellement de l'alchimie à la science moderne dans le domaine de la métallurgie physique. Alors, si vous prenez un tuyau d'orgue, je parle uniquement des tuyaux d'orgue de façade, qui sont essentiellement en alliage et plomb. Les grands tuyaux d'orgue de façade, le traité de facture d'orgue, le classique de Drobedos de Sel, explique qu'il faut rajouter de l'antimoine dans l'alliage et plomb. C'est assez amusant de rajouter de l'antimoine dans un alliage qu'on met dans une église, mais enfin, toujours est-il que la raison profonde est que cet élément qu'on ajoute à l'étain plomb, s'agglomère en petites particules, et ces petites particules empêchent les défauts linéaires qu'il y a dans l'alliage étain plomb de se déplacer. Et le résultat, c'est que, grâce à cette quantité infime d'antimoine, l'alliage étain plomb devient plus dur. C'est-à-dire qu'il peut supporter le propre poids des très grands tuyaux. Les facteurs d'orgue savaient très bien qu'il fallait le faire pour les très grands tuyaux et pas forcément pour les petits. Alors évidemment, ils n'avaient pas la moindre idée de la raison pour laquelle ça se passait comme ça. Je vous ai donné une relecture du phénomène ici. Alors, il se trouve que cette connaissance qui relevait à la fois de la tradition et de l'alchimie, on l'a redécouverte dans le domaine des alliages aéronautiques, ou le même phénomène physique dans un autre alliage, qui sont des alliages base d'aluminium, et on l'a découvert un peu par hasard, conduit à voir des alliages d'aluminium plus durs que de l'aluminium pur est d'une mollesse effroyable, des alliages plus durs que de l'aluminium pur, et qui sont la base de toutes les familles d'alliages aéronautiques qu'on a pu avoir depuis. Alors, toujours est-il que là aussi, on ne savait pas forcément quelle était la raison, mais d'une certaine manière, on avait une approche un peu plus systématique. Alors, ce qui a permis de voir quelle était la raison, ça a été de développer des méthodes de caractérisation, donc à l'origine des méthodes de caractérisation par rayons X, mais des méthodes de caractérisation aussi par microscopie électronique à transmission, et qui ont permis d'aller voir à l'intérieur de ces alliages métalliques comment se distribuaient les différents types d'atomes. Et on a pu voir des structures extrêmement fines qui sont à l'échelle nanométrique. Chaque fois que vous prenez un avion, vous volez dans du nanomètre. Vous avez des nanomatériaux dans le renfort des pneumatiques sur lesquels vous roulez. Cette échelle-là, très fine, est la raison pour laquelle on durcit ces matériaux par un traitement thermique. Alors, ce qu'on a vu là, c'est voir apparaître la métallurgie moderne. La métallurgie moderne, la métallurgie physique moderne, est une discipline relativement récente. Les choses dont je suis en train de vous parler se sont développées essentiellement pour ce qui est des concepts et pour ce qui est des compréhensions expérimentales. Les bases ont été jetées dans les années 30, 40, 50. Et essentiellement, je pense qu'on continue à écrire des notes en bas de page de ces idées très intéressantes qui se sont développées à ce moment-là. Mais vous allez voir que les notes en bas de page sont assez riches et prennent une bonne partie de la page maintenant. Alors, ça nous amène à la science des matériaux. Alors, je ne veux pas oublier la métallurgie, parce que la science des matériaux de structure est d'une certaine manière une émanation de la métallurgie moderne. Et cette science des matériaux se trouve être une discipline intermédiaire. Serge Haroche l'a dit tout à l'heure, c'est une discipline intermédiaire entre les différentes disciplines fondamentales. On ne sait jamais si quelqu'un qui fait de la science des matériaux est physicien, chimiste ou mécanicien, et en fait, il est les trois à la fois sans être réductible à aucune de ces trois disciplines. Et c'est aussi une discipline intermédiaire entre le comprendre pour comprendre des sciences fondamentales et le comprendre pour faire des sciences appliquées. Donc c'est ce domaine-là que je vais essayer de regarder pendant les 8 cours qui suivront. Alors, regardons d'abord les stratégies de développement de développement des matériaux haute performance, et ce que je vais faire, c'est introduire progressivement l'ensemble des cours et leur articulation logique. Alors, par matériaux à haute performance, j'entends des matériaux qui remplissent bien leurs fonctions. Vous pouvez avoir des matériaux à haute performance dans les canettes de Coca-Cola, vous pouvez avoir des matériaux à haute performance dans un bloc moteur d'une voiture. C'est des matériaux qui font le meilleur usage possible de la matière pour remplir une fonction. Alors reprenons à notre petit fil rouge, donc du matériau de rencontre au matériau sur mesure. Je vais essayer de vous parler d'abord de l'atome au composant, c'est-à-dire de la modélisation multi-échelle. D'une certaine manière, ce sont les outils modernes de ce qu'on appelle l'alloy design, c'est-à-dire concevoir un alliage et un traitement thermomécanique d'un alliage pour un panel de propriétés données. Mais l'histoire n'est pas tout, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se pose pas simplement la question des propriétés d'un petit morceau de matière, il va falloir se poser la question de savoir comment ce petit morceau de matière est mis en œuvre. Et d'autres outils de modélisation sont nécessaires, c'est ce que j'appellerais la modélisation intégrée, et c'est le versant moderne de ce qu'on appelle le process design, c'est-à-dire la conception d'un procédé sur mesure. Alors, un exemple qui résulte d'une collaboration entre différents laboratoires, et l'exemple de la précipitation, la simulation de la précipitation dans des alliages aluminium avec du lithium et aluminium avec du zirconium. L'auteur de ce diagramme se trouve en bas à gauche, là, Emmanuel Clouet. Cette précipitation, vous avez le rayon des précipités en fonction du temps. Et l'idée ici, c'est d'avoir une compréhension, le traitement thermique de précipitation, comment on constitue à décomposer l'alliage, c'est-à-dire à mettre d'un côté le lithium et de l'autre côté l'aluminium. Alors, il n'y a pas beaucoup de lithium. Quand on met un peu de lithium en paquet, ben, ça a plutôt tendance à s'ordonner. Donc, on va non seulement décomposer, mais aussi ordonner les différents amas. Ces amas vont empêcher les défauts linéaires de bouger, c'est-à-dire qu'on va avoir pour résultante le durcissement de l'alliage. Et là, c'est justement parce que ça se passe comme ça qu'on a vraiment envie de le contrôler. Alors, le contrôler, ça veut dire qu'on a envie de comprendre. Et pour comprendre ça, eh bien, on comprend bien les choses quand on commence à regarder ce qui se passe au niveau atomique, parce que c'est là où on a la maîtrise de la chose, où la phénoménologie ne vient pas masquer la physique qu'on veut mettre dedans. Donc ça, ce sont des simulations de Monte-Carlo cinétique que vous avez à gauche, qui permettent d'avoir les premiers points de rayon en fonction du temps. Vous avez aussi une étape de modélisation qui serait plus au niveau mésoscopique. C'est de la dynamique d'amas. On ne va plus considérer que l'entité élémentaire qu'on est en train de considérer, ça n'est plus l'atome. L'entité élémentaire, c'est des paquets d'atomes. On a des distributions de paquets d'atomes de différentes tailles. Et on regarde comment ces distributions sont en train d'évoluer en fonction du temps. Donc ça, c'est la ligne continue. Vous voyez que la chose qui est intéressante, c'est que la ligne continue a le bon goût de se superposer avec la simulation atomique. Et là, sans aucun truandage, aucun, ce qui est, ma foi, fort sympathique. Vous n'avez pas de constante de Lourdes qui vous permette d'ajuster une courbe sur l'autre. Chose encore plus sympathique, c'est, vous voyez, les petits carrés, ça, c'est des points expérimentaux, qui ont en plus le bon goût de se mettre sur la courbe théorique. Alors là, c'est l'euphorie. Et maintenant, si vous regardez les échelles de temps, en fait, on peut ensuite continuer, cette fois-ci, en se raccrochant à des modèles phénoménologiques plus continus, des modèles où on utilise des équations de diffusion pour pouvoir aller beaucoup plus loin en temps, voire faire des traitements qui ne seraient pas anisothermes, qui ne seraient pas isothermes, faire des traitements qui ressemblent aux traitements industriels. Donc vous voyez un cas de figure où on a fait le changement d'échelle de temps. Et ce changement d'échelle de temps nous permet de comprendre comment un traitement thermique donné conduit à une modification de l'état microstructural. Alors, le métallurgiste, c'est un animal qui vend ce qu'il fabrique, qui ne vend pas ce qu'il fabrique. En fait, il fabrique des microstructures et il vend des propriétés. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne maintenant comment ces microstructures sont liées aux propriétés d'usage du matériau. Alors, je ne vais pas vous en parler pour cet alliage-là, mais je vais vous montrer un autre type de méthodes de modélisation, qui sont des méthodes de modélisation où le changement ne se fait pas par échelle de temps, mais le changement se fait par échelle d'espace. Alors, ce type de simulation, c'est d'essayer de comprendre un essai de nano-indentation à partir du comportement au niveau atomique. Alors, au niveau atomique, quand vous faites votre essai d'indentation, c'est-à-dire vous mettez une petite pyramide dans un métal, et cette pyramide, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce, eh bien, elle va émettre des défauts. Et ces défauts, c'est des zones où les atomes sont mal coordonnés. Ces défauts, on les appelle des dislocations, donc vous émettez des boucles de dislocation. Et ce qui va vous permettre d'émettre des boucles de dislocation, c'est un critère qui se trouve à l'échelle atomique. Bon, évidemment, entre l'échelle atomique et votre aile d'avion, il y a des choses qui se passent. Donc, une fois que vous avez compris comment la boucle de dislocation est émise, l'étape d'après, c'est de dire, eh bien, je vais considérer que je vais rentrer ce critère-là comme critère d'émission d'une boucle de dislocation qui, après, va vivre sa vie. Mais elle ne vit pas sa vie toute seule, elle vit sa vie avec tout un ensemble d'autres boucles de dislocation. Donc là, vous avez à comprendre le comportement collectif d'un ensemble de défauts linéaires. Alors, évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous êtes toujours avec des déformations faibles et des tailles faibles d'échantillons. Donc, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il va falloir utiliser les lois de comportement, c'est les relations entre la contrainte et la déformation que vous allez avoir sous votre indenteur, pour pouvoir le rentrer dans un code de calcul par élément fini. Et ce code de calcul par élément fini va pouvoir vous permettre d'aller plus loin en ce qui concerne la simulation du comportement. Donc voilà un cas de figure où on essaye d'avoir des outils de modélisation qui sont des changements d'échelle d'espace cette fois-ci. Les personnes qui ont effectué ce travail sont à droite, Marc Fivel, David Rodney et Marc Bernier. Alors là, je vous ai parlé du développement d'alliage. Maintenant, un alliage n'a de sens que quand on lui fait faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à sa mise en œuvre. Pour réfléchir à sa mise en œuvre, j'ai choisi un exemple, qui est un exemple assez amusant, qui est une nouvelle méthode d'assemblage qui est particulièrement intéressante dans les alliages aéronautiques, c'est ce qu'on appelle l'assemblage par friction-malaxage. Alors l'idée est assez géniale, il fallait être britannique pour inventer ça. Vous prenez deux tôles, vous les mettez l'une contre l'autre et vous faites passer un pion entre les deux tôles qui tourne et qui prend la matière d'un côté pour la mettre de l'autre côté. Et alors la grosse astuce, c'est que vous réussissez comme ça à faire une soudure sans être jamais passé à l'état liquide. Alors vous allez me dire, bon, oui, ça vous excite de ne pas passer à l'état liquide. Ben oui, pour l'alliage d'aluminium, c'est très important parce que quand vous passez à l'état liquide, vous faites de l'alumine et que l'alumine, dans une soudure, il n'y aura plus qu'à découper suivant le pointillé. Donc cette technique-là est particulièrement intéressante pour essayer de faire des soudures de très bonne qualité. Alors, je vais vous montrer comment on peut essayer, pas simplement de comprendre ce procédé, mais aussi d'utiliser cette compréhension pour l'optimiser. Alors, je vais vous montrer un chaînage ici qui vous montrera à la fois ce qu'on fait et ce qu'on est obligé de développer en termes de connaissances de base pour pouvoir aller plus loin. Vous avez ici ce qu'on va devoir faire pour comprendre ce procédé de soudage. Vous allez devoir comprendre comment on génère de la chaleur par la friction et par le transport de matière. Alors, vous pouvez essayer de faire un modèle thermique pour ça. Et puis, comme vous avez quand même qu'une confiance modérée dans votre modèle thermique, ben vous mettez des thermocouples pour vérifier. Donc, vous avez à la fois un ensemble expérimental et un ensemble de simulations. Vous allez, étape d'après, à chaque endroit de votre tôle d'aluminium, vous savez quelle est l'histoire thermique qu'a vécu cet endroit. Ça veut dire que ça va avoir chauffé, ça va avoir refroidi en suivant la position. Donc, cette histoire thermique va vous conduire à une évolution de la microstructure. Cette évolution de la microstructure, vous pouvez la comprendre par des modèles du type de celui que je vous ai présenté tout à l'heure, qui va vous dire à tel endroit, on a telle fraction volumique de précipité et telle taille de précipité. Ça, c'est un modèle de précipitation. Eh bien, ce modèle de précipitation, on va aussi regarder d'un point de vue expérimental si ce qu'on fait est raisonnable par des techniques d'observation microstructurale. Alors, vous avez une microstructure, il va falloir comprendre quelles sont les propriétés qui en résultent. Toute une branche de la métallurgie qui s'appelle la métallurgie mécanique, qui a cette fonction-là, de relier une microstructure, d'une part, à la limite à partir de laquelle le matériau se déforme plastiquement, et éventuellement, la manière dont il se consolide au fur et à mesure qu'on le déforme. Vous pouvez le faire théoriquement, et vous le faites aussi expérimentalement, en prenant des micro-éprouvettes et en testant localement le matériau. Puis vous continuez, vous avez des propriétés mécaniques locales, et vous avez maintenant une soudure, où vous avez tout un ensemble de tranches de matériaux qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas ni les mêmes microstructures, ni les mêmes propriétés. Donc là, il va falloir passer à des calculs de type élément fini pour essayer de comprendre le comportement de l'ensemble de cette structure. Et vous allez le faire par un calcul qui relève, là, cette fois-ci, on avait commencé par parler à des physiciens, on termine en parlant à des mécaniciens. Eh bien, pour faire cette approche-là, vous pouvez le coupler avec des méthodes de corrélation d'images, c'est-à-dire vous regardez comment se déforment localement différentes places de la soudure. Alors, ça, c'est un travail de longue haleine. Vous sentez pourquoi on fait ça? Ben, ce qui m'intéresse, c'est les propriétés globales. Et ce dont j'ai la maîtrise, c'est les paramètres du procédé. Si j'ai bien compris tout ça sans faire d'entourloupe, eh bien, je suis capable de dire il vaut mieux que j'avance plus vite, que je tourne plus vite, que j'ai mon métal dans tel et tel état avant de commencer. Ce qui me permettra donc d'optimiser le résultat à la fin. Alors, c'est ce que j'appellerais de la modélisation intégrée, à part que on ne sait pas tout. Donc ça nous a conduit à un moment de dire, eh bien, pour comprendre la consolidation au fur et à mesure que le matériau se déforme, eh bien là, il a fallu développer des modèles supplémentaires de métallurgie mécanique qui n'existaient pas, qui sont la manière dont les dislocations, les défauts linéaires, s'accumulent à l'intérieur d'un matériau polyphasé. Alors, on va aller maintenant vers les matériaux sur mesure. Alors, ces matériaux sur mesure, je vais aborder le problème de deux façons. Le problème va être de répondre à deux questions. C'est un, il faut que ça marche, et deux, il faut que ça dure. Ce qui est typiquement une question d'ingénieur. Alors, pour savoir comment il faut que ça marche, eh bien, il va falloir choisir les différents matériaux, les choisir en fonction du cahier des charges. J'ai rajouté une petite boîte sur un cours qui sera consacré à cela, un cours qui sera consacré au problème d'éco-conception, c'est-à-dire de concevoir une structure de façon à la rendre la plus respectueuse possible de l'environnement. Et après, j'essaierai de vous montrer comment se pose la question de savoir est-ce que ce que j'ai fabriqué va être capable de durer. Il y a très peu d'outils, d'objets de l'ingénieur qui ne sont pas faits pour durer. Donc c'est une question qui est centrale à toute la démarche de l'ingénieur en matériaux. Alors, les problèmes de choix de matériaux. Essentiellement, on part de tous les matériaux et de tous les procédés possibles, et vous voyez qu'on doit choisir en même temps les matériaux et les procédés. On va commencer par faire un filtre, c'est-à-dire dire en fonction des propriétés, en fonction de la température à laquelle le système doit fonctionner, en fonction du milieu dans lequel il fonctionne, il y a des matériaux qui ne vont pas du tout être adaptés. Et de la même manière, en fonction de la taille d'un composant que je dois pratiquer, je ne vais sûrement pas faire la tour Eiffel par déposition à l'échelle atomique en phase vapeur. Donc, je vais avoir une première étape qui va être d'éliminer un certain nombre de choix. Cette deuxième étape, après, une fois qu'on a des choix admissibles, il va falloir les classer. Alors, on va les classer de deux manières. Pour ce qui est des matériaux, on va les classer vis-à-vis de leur performance vis-à-vis du cahier des charges. Pour ce qui est des procédés, on va les classer vis-à-vis de leur coût vis-à-vis du cahier des charges. Donc ça va nous donner un sous-groupe de matériaux et de procédés qui sont admissibles et qui sont classés. Et puis la troisième étape, ça va être de dire, bon, ben, j'ai quelques solutions qui sont possibles, eh bien, je vais me renseigner pour savoir si je peux effectivement le faire. Alors, les méthodes de choix de matériaux, là, ce que je viens de vous dire, ça relève du pur bon sens. Les méthodes de choix de matériaux sont à peu près une histoire d'à peu près 15 ans de progrès continu. Les derniers développements, donc l'équipe de Cambridge a été particulièrement active là-dedans, ont conduit à avoir des logiciels de sélection des matériaux, des logiciels de sélection des procédés, des modules d'estimation des coûts, des outils d'éco-audit sur les objets. On fait une éco-audit pas sur un matériau, mais sur un objet, des bases de données sur mesure. Ça, c'est ce que je dirais qui est accessible à tout le monde. Et puis évidemment, il y a tout un aspect qui consiste à essayer de faire des développements sur mesure. Ça veut dire capture de l'expertise, de l'étude de cas, de logique floue, des algorithmes génétiques. Et ça, les gens avec qui on parle à ce niveau-là, c'est des gens, des spécialistes d'informatique, d'intelligence artificielle, où il y a tout un monde à découvrir pour les gens des matériaux. Alors, quelques idées clés. La comparaison entre les matériaux doit être effectuée le plus tôt possible dans la procédure de conception. Elle doit être aussi ouverte que possible en termes de matériaux. La comparaison doit reposer sur une définition aussi claire que possible d'un cahier des charges fonctionnelles. Les requêtes qui impliquent explicitement une durée de vie sont généralement des problèmes système. C'est-à-dire quand on se pose la question de la tenue en l'environnement, c'est un matériau dans une géométrie donnée, dans un milieu donné. Le couplage entre le choix des matériaux, l'optimisation des formes et le choix des procédés est une question essentielle. Et en fait, la dernière chose, c'est que la procédure de sélection doit être à la fois itérative et hiérarchisée. Alors, juste un exemple, voilà un avion qui n'est pas de la toute première modernité, mais vous pouvez, pour les différentes pièces, dire quelle est la combinaison de propriétés qui est pertinente. Ça va être la limite d'élasticité divisée par la densité qui vous dit que je vais faire une pièce qui doit être à la fois solide et légère. Alors, après, on va utiliser des bases de données qui vont faire apparaître les matériaux sur ce genre de cartes. Et puis vous allez sur ces cartes-là, en coordonnées logarithmiques, regarder tous les matériaux qui ont la même performance. Ça, c'est pour une pièce qui est en traction, qui est rigide et qui est légère. Tous les matériaux qui sont sur la même ligne vont avoir la même performance vis-à-vis de cette requête. Si vous avez une pièce qui n'est pas en traction, mais qui est en flexion, c'est cette ligne-là qui va être la ligne équiperformance. Donc vous sentez bien que ce que je suis en train de vous expliquer est effectivement très simple par rapport à un vrai problème industriel. Maintenant, si vous vous dites qu'on a les moyens de traiter ça avec un très grand nombre de requêtes, de pondérer ces différentes requêtes, de faire du choix multicritère, vous sentez qu'on commence à avoir des guides d'aide au choix. Alors, un dernier mot en ce qui concerne les problèmes de bilan écologique. Alors ça, c'est très à la mode, et comme toutes les choses qui sont à la mode, il est souhaitable de le regarder calmement. Alors, si on regarde le problème du bilan écologique d'un objet, une chose qui est importante, c'est de savoir, par exemple, pour les émissions de CO2 ou pour la consommation d'énergie, quelle est la part qui vient du matériau, quelle est la part qui vient de la manufacture, quelle est la part qui vient du transport et quelle est la part qui vient de l'usage. Prenez un avion, l'essentiel de la consommation d'énergie d'un avion, c'est pendant qu'on le fait fonctionner. Si vous vous posez la même question pour un parking, le parking, c'est le matériau qui est essentiellement l'essentiel du contenu énergétique. Et maintenant, si vous vous posez la question sur une maison, eh bien, vous avez à la fois, pour la consommation énergétique, quelque chose qui va relever des matériaux qu'on utilise et quelque chose qui va relever de l'usage de la maison. Alors, quand on le dit comme ça, c'est tout simple, mais ça vous permet de dire que si je veux véritablement faire quelque chose d'intelligent en termes écologiques pour les avions, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'allège les structures. Si je veux faire quelque chose d'intelligent pour le parking, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve un matériau qui a un moindre contenu énergétique, puisque je ne le déplace pas. Et si je veux faire quelque chose d'intelligent pour les maisons, il faut que je travaille à la fois sur l'énergie que j'utilise dans la maison et sur l'énergie que j'utilise pour construire la maison. Alors, ça, c'est des choses qui sont en cours de développement et qui conduisent à essayer de rajouter sur ces différents critères quelque chose qui est une exigence de plus en plus prégnante, qui est l'exigence du respect de l'environnement. Alors, je vais maintenant vous parler de la durabilité des matériaux. C'est pas simplement un problème de matériaux, c'est un problème de système. Et je vais vous donner un exemple de ça. C'est un exemple qui est issu de l'aéronautique. Prenez une hobe de turbine. Une hobe de turbine, c'est dans un moteur d'avion, c'est un outil qui est extrêmement performant. Si vous voulez augmenter la performance d'un moteur jusqu'à ce qu'une assemblée nationale nous vote une autre loi que la loi de Carnot sur l'efficacité énergétique, on ne peut dire qu'augmenter la température des moteurs. Augmenter la température des moteurs, comme dans toute machine thermique, ça va conduire à avoir des exigences sur les matériaux, qui est d'augmenter la durabilité vis-à-vis de sollicitations mécaniques à haute température, et la durabilité vis-à-vis d'une atmosphère oxydante. Alors, là, je vais me tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire pour vous avoir dit que les matériaux étaient absolument centraux dans la question, je vais vous montrer qu'ils sont centraux, mais pas tout seuls. Donc voilà une carte, qui n'est pas si ancienne que ça, sur l'évolution des différents matériaux. Alors c'est des évolutions en termes de composition, c'est des évolutions en termes de microstructure aussi, et qui conduisent à des températures de fonctionnement des moteurs sous une contrainte donnée qui est de plus en plus élevée. Donc voilà, grosso modo, quand on voit ça, le métallurgiste triomphe, il dit, vous voyez, j'ai considérablement amélioré l'efficacité des moteurs. Et puis si on met ça un petit peu en perspective, et qu'on voit un peu plus vers les années où on se trouve maintenant, bien vous voyez que l'augmentation de température de fonctionnement des moteurs et beaucoup plus que l'augmentation de température de fonctionnement des matériaux des moteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a gagné énormément simplement en ayant des systèmes qui permettent de refroidir et des barrières thermiques. Donc vous êtes dans une situation où la solution d'optimisation de la durabilité n'est plus simplement une question de matériaux, c'est une question de système et de mise en œuvre. Alors quand même, c'est un cours sur les matériaux que je fais, donc je vais quand même vous dire que les matériaux ont quelque chose à dire là-dessus. Et ce que les matériaux ont à dire là-dessus, ben, c'est développer des barrières thermiques. Ça, c'est un diagramme qui est du René Meuvrel à l'ODERA. Développer des barrières thermiques sur un superalliage, ben, c'est un vrai problème de matériaux. Et voyez la multitartine qu'on va obtenir. On va avoir des barrières contre l'interdiffusion, un réservoir d'aluminium qui nous fait une couche de protection contre l'oxydation. Il va falloir avoir une couche d'adhésion compatible avec l'alumine, tout ça sur un isolant thermique. Et évidemment, il faut que tout ça, ça résiste à l'érosion. Donc vous imaginez la tartine de multicouche qu'on est obligé de faire. Donc ça veut dire que le problème n'est pas un problème de système, mais la solution est une solution qui est une solution de procédés et de matériaux. Alors, je pense que vous auriez été déçu vu ma nouvelle fonction, que je ne parle pas du tout, au moins, enfin que je ne parle pas un tout petit peu du nucléaire quand même. Alors je vais vous parler un tout petit peu du nucléaire dans ce que je vais appeler les conditions extrêmes. Il y aura un cours et un séminaire qui sera consacré à cela. Quelles sont les spécificités scientifiques de la science des matériaux en environnement nucléaire ? Alors, c'est Georges Martin qui m'a appris ça il y a pas mal d'années maintenant. Les effets de l'irradiation, c'est probablement ce qui peut arriver de pire à un matériau solide. Parce qu'on secoue toutes les briques élémentaires, on secoue tout ce qui fait qu'un matériau est un matériau. Vous allez perturber l'ordre atomique en créant des défauts de structure, vous allez perturber la chimie, éventuellement en faisant des transmutations, et vous allez perturber le transport des atomes en les forçant à bouger et en les secouant en permanence. Donc ça veut dire intrinsèquement, la science des matériaux en environnement nucléaire, ça doit par nature être une science multi-échelle, parce que le dégât arrive au niveau atomique et le résultat arrive au niveau de la cuve. Donc vous avez de l'atome à 10 mètres de haut. C'est une science multi-échelle et c'est évidemment aussi une science où on doit faire des changements d'échelle de temps, alors entre la picoseconde et le millénaire, voire beaucoup plus, quand on se pose la question de savoir comment les déchets vont pouvoir être confinés. Donc, cette discipline-là voit un rôle clé des simulations numériques et une autre caractéristique, c'est que les études expérimentales sont à la fois importantes et difficiles, ce qui veut dire coûteuses, ce qui veut dire qu'il faut en permanence se convaincre qu'il faut les faire. Alors, les matériaux en ambiance nucléaire, c'est un défi, d'aucuns diraient un cauchemar. Vous avez à peu près tout. Vous avez une sollicitation mécanique qui peut être couplée à une sollicitation en température, qui peut être couplée à une irradiation, le tout dans un milieu qui n'est pas forcément chimiquement très sympathique, et vous arrivez au summum qui est la corrosion sous contrainte assistée par l'irradiation qui peut occuper des métallurgistes pendant des décennies, d'ailleurs ça le fait. Donc, maintenant, on va revenir vers l'étape suivante, là pour l'instant je vous ai parlé de différentes classes de matériaux et de la manière dont on avait appris comment ils se comportaient pour apprendre comment les améliorer. Je vais terminer maintenant en vous parlant du retour de la géométrie, des matériaux architecturés aux matériaux bio-inspirés. Alors, les matériaux architecturés multifonctionnels, c'est ce qui est tout à fait en haut de la colonne. On va essayer de faire des matériaux sur mesure. Alors, qu'est-ce que j'appelle matériaux architecturés ? Alors, c'est un peu byzantin. Il y a toujours des gens qui vont se demander est-ce qu'un matériau architecturé, c'est ou ça n'est pas un composite ? Bon, la manière de poser la question, c'est de dire c'est des matériaux pour lesquels la répartition de matière se fait à une échelle comparable à l'échelle du composant et permet de remplir des requêtes qui seraient contradictoires pour un matériau unique. Les associations de matière, de géométrie et de topologie sont autant de leviers d'optimisation. Donc, c'est quelque chose qui est un peu intermédiaire entre le matériau et l'objet. Alors, je vais juste vous donner un exemple de matériau architecturé. C'en est un que j'aime beaucoup, c'est celui-là. C'est le fil électrique, parce qu'évidemment, il doit conduire l'électricité, donc ça vous impose plus ou moins de faire un métal. S'il n'était pas isolant, je serais mort. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un isolant, et ça serait particulièrement bête de mettre le métal dehors et l'isolant dedans, donc la topologie est importante. Et si j'avais fait simplement ça bêtement, eh bien j'aurais pas fait un câble, j'aurais fait une canne. Donc pour pouvoir faire un câble, j'aurais rajouté la flexibilité intrinsèquement contradictoire avec la liaison forte qu'on a dans les métaux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on joue avec la géométrie pour avoir cette flexibilité. Et bien là, vous avez un exemple prototypique d'un matériau architecturé. Alors, est-ce un matériau ? Est-ce une structure ? On peut passer des lustres à discuter ça, et puis on peut aussi se dire, ben, je vais essayer de l'optimiser. Alors, ça nous amène à un certain nombre de choses en termes d'échelle. Alors là, j'ai fait ces échelles-là en ayant en tête des applications structurales, mais on peut avoir la même démarche en ayant en tête des applications dans le domaine des circuits intégrés, par exemple. Donc, parlons des applications structurales. Le carré vert à gauche, enfin, pas le carré, si vous parlez de géométrie en appelant ça un carré, on est mal parti. Bon. L'hexagone à gauche, c'est des échelles en dessous du micron, c'est l'échelle de la microstructure. C'est le domaine privilégié de la métallurgie physique, ça. Puis l'échelle à droite, l'hexagone rouge, c'est l'échelle de la superstructure. Regardez la tour Eiffel, c'est une manière particulièrement intelligente d'utiliser la matière en faisant des poutres qui ont des sections particulières, qui sont rangées de manière particulière pour monter le plus haut possible avec un minimum de matière. Alors ce que je voudrais simplement vous faire passer comme message, c'est qu'il y a une zone intermédiaire qui est soit une zone où on va avoir un gradient de microstructure, qui veut dire aussi un gradient de propriété, et qui se trouve, on va l'étaler sur des distances qui sont grandes devant l'échelle de la microstructure, mais qui sont comparables à l'échelle du composant dans lequel on le fait. Et je vais avoir de l'autre côté quelque chose qui va être d'essayer d'organiser la matière, éventuellement de l'organiser avec du vide, par des matériaux qu'on va appeler des matériaux hybrides, qui va être d'essayer d'importer au niveau, disons, de l'ordre du millimètre, d'importer des idées qui viennent de la mécanique des structures. Alors, quelques idées. Je vais juste prendre la dernière, par exemple. Une géométrie particulière. Vous voulez faire une pièce dans un matériau qui est intrinsèquement fragile. Vous voulez faire une pièce de grande taille. Alors une manière de faire ça, c'est d'appliquer la stratégie de gribouille. C'est-à-dire, pour pas que ça casse, vous le cassez déjà. C'est-à-dire, vous allez prendre des blocs et vous allez débrouiller pour que ces blocs soient à une géométrie donnée de façon à ce qu'ils se bloquent les uns les autres quand, par exemple, on va faire une flexion sur cette plaque-là. Alors quand vous faites ça, l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça avec un matériau qui est très fragile. La fissure ne va se propager que dans un seul bloc. Donc en préfragmentant le bloc, vous avez créé un matériau qui peut être à la fois un matériau fabriqué, alors c'est un matériau entre guillemets, fabriqué avec un constitutif fragile, mais qui a une certaine tolérance au dommage. Alors en prime de ça, c'est que suivant la manière dont vous le tenez sur les bords, vous allez avoir quelque chose de plus ou moins rigide. Donc vous avez un matériau que vous pouvez d'une certaine manière adapter à la fonction. Donc, ce domaine intermédiaire entre la métallurgie et la mécanique, pour ce qui est des matériaux architecturés, je l'ai appelé trois points d'interrogation. C'est peut-être ça, entre autres, la science des matériaux. Alors, quelques exemples de ces matériaux architecturés. En voilà un qui est obtenu par un traitement thermique, tout ce qui est de plus classique, sur un acier. Et l'idée, c'est de faire un matériau qui est dur dedans et mou dehors et qui est plus tolérant aux dommages. Alors, quand vous regardez ça, c'est là que ça va m'amener progressivement à regarder des matériaux naturels, cette fois-ci. Quelque chose qui est dur, mou, dur, c'est exactement la structure de la dent. Vous pouvez fissurer l'émail, et si ça se débrouille bien, la fissure ne va pas se propager à l'intérieur de la dent parce qu'elle va patiner dans la zone molle juste en dessous, qui est la zone de la dentine. Donc là, l'idée, c'est peut-être de faire des dents en acier. Enfin, non pas des dents en acier, mais j'appelle ça un acier dentaire. Voilà maintenant un autre exemple. C'est un travail qui avait été fait à l'ONERA avec tout un ensemble de thésards. C'était de dire, on veut essayer d'absorber le bruit d'un avion. Le bruit, c'est une onde de pression dans du gaz, l'air. Pour pouvoir absorber ce bruit, eh bien, il faut essentiellement que le gaz pénètre. Donc, il vous faut un matériau poreux. Maintenant, pour qu'il pénètre, il faut que ce soit un matériau poreux à porosité ouverte. Manque de chance, les matériaux poreux à porosité ouverte ne sont pas bons mécaniquement. Donc, il vous faut un matériau poreux à porosité fermée. Donc là, vous n'êtes pas bien. Et donc, vous faites un matériau qui est poreux à porosité ouverte et fermée. Ça veut dire que vous empilez des sphères creuses. Et ce matériau-là, eh bien, vous pouvez essayer de le concevoir sur mesure en faisant du calcul, cette fois-ci, faisant des calculs d'absorption acoustique. Et le paramètre qui est important, c'est, vous avez un certain nombre de paramètres géométriques, la taille des billes, l'épaisseur des billes, la taille des cols, la fraction volumique de billes, et c'est ça qui va vous permettre de dire, pour tel spectre de bruit, voilà l'assemblage de matériaux que je vais devoir faire. Alors, celui-là sur l'affiche, vous l'avez peut-être vu, c'est un matériau que j'aime beaucoup, c'est la mécanique du Scotch-Brite. La mécanique du Scotch-Brite, c'est des laines d'acier. Ces laines d'acier sont compactées. Ça, c'est la microstructure que ça présente, qui est très, très amusante. Enfin, c'est des espèces de copeaux qu'on a mis ensemble. Et on a envie de comprendre les propriétés mécaniques de cette chose-là. Alors, vous pouvez faire des choses compliquées, vous pouvez faire des choses simples. Les choses simples, c'est de dire, c'est essentiellement des poutres qui sont en train de s'appuyer les unes sur les autres, qui sont en train de fléchir sous la force que j'applique de l'extérieur. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelle est la rigidité de chaque poutre et quel est le nombre de contacts. Alors, je peux faire une modélisation purement géométrique, je constate que ça marche pas. Par contre, ce que je peux me dire, où est-ce que ça marche pas, c'est pas dans les mécaniques, c'est dans la géométrie. Donc, on va aller compter le nombre de contacts. Alors, pour compter le nombre de contacts, eh bien, vous faites ça au rayonnement synchrotron à Grenoble, c'est la porte d'à côté. Et donc, vous allez comprimer ça en même temps que vous le regardez par rayons X, et puis vous allez compter le nombre de contacts entre poutres, et vous allez comme ça pouvoir construire un modèle simple entre la contrainte que vous appliquez et la déformation. Alors, c'est pas simplement pour le plaisir de comprendre, parce que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est ces matériaux-là, on a envie de les avoir soit complètement lâches, et là, ils vont pouvoir absorber beaucoup de vibrations, soit de les avoir complètement frités, et là, ils vont être beaucoup plus rigides. Et là, je peux encore essayer de me trouver quelque part entre les deux pour faire quelque chose qui est à la fois rigide et absorbeur de vibrations. Bien, je crois que j'arrive en fin de séance. Donc, je vais passer maintenant aux défis et aux promesses de ces matériaux architecturés. Je dirais que c'est un peu un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'on s'échappe de la distinction entre les matériaux de structure et les matériaux fonctionnels. Et les exigences des nouveaux cahiers des charges font qu'on demande de plus en plus aux matériaux d'avoir une première fonction qui est structurale, mais éventuellement avoir des capteurs qui permettent de voir si c'est dégradé. Donc, de plus en plus, on demande des choix qui sont multifonctionnels. C'est au-delà de la distinction entre le matériau et le composant. Vous avez vu, je dis, c'est pas très bien si on est dans un composant, une structure ou dans un matériau. Et c'est au-delà de l'identification entre la performance et la propriété. Les matériaux architecturés, c'est un domaine qui est ouvert en ce sens que là, je juste esquissais ce qu'on pouvait essayer de faire, mais se pose la question de l'optimisation des formes avec toutes les méthodes algorithmiques qui permettent d'avoir des outils d'optimisation. La question de la co-sélection des matériaux. Quand je veux avoir plusieurs matériaux ensemble, quel est l'algorithme de sélection qui va me permettre de marier plusieurs bases de données? Je vais évidemment, l'endroit où ça va faire mal, c'est quand je veux avoir des matériaux qui sont différents, eh bien je vais avoir toute une ingénierie des interfaces à développer. Il va falloir que je comprenne comment deux matériaux complètement différents arrivent à bien vivre ensemble. C'est un champ expérimental à découvrir avec des procédés innovants. Est-ce qu'il va falloir plutôt prendre des procédés top-down ou bottom-up? Comment on va tester le matériau? Quelles sont les techniques de contrôle non destructif? C'est un champ conceptuel à défricher. Quelle approche de milieu continu pour un matériau architecturé où la distribution de matière se fait à des échelles qui ne peuvent pas être oubliées vis-à-vis de la structure? Le problème d'une architecture, quand j'ai une échelle, c'est bien, mais si on regarde tous les matériaux de structure naturelle, eux, leur caractéristique, c'est d'avoir beaucoup d'échelles emboîtées. Comment je traite ce problème-là? Je peux aussi regarder des problèmes qui sont liés aux problèmes d'actuateurs et de capteurs. Un des séminaires portera là-dessus. C'est une nouvelle stratégie dont on a besoin pour réaliser des matériaux sur mesure. Alors, on termine par le Graal, les matériaux bio-inspirés. Je dis bien bio-inspirés, je ne dis pas biomimétiques. Matériaux bio-inspirés, la différence fondamentale entre ce que fait l'ingénieur et ce que fait la nature, c'est que l'ingénieur, il suit un plan et que la nature, elle suit un code. Ça, c'est très schématique, c'est un point de vue d'ingénieur. Mais en tout cas, ça veut dire que on a réussi à voler quand on a arrêté d'imiter les oiseaux. Donc, je crois que c'est très, très important de ne pas considérer que c'est une manière d'arrêter de réfléchir. Alors, ce que je veux simplement vous montrer, c'est qu'on a une tentation. La tentation, en mettant ça dans une nutshell, c'est que la nature a relativement peu de briques élémentaires. Elle est un peu obligée. Au-dessus de 42 degrés, les choses se passent très mal. Donc ça veut dire qu'elle est plus ou moins contrainte à utiliser des matériaux organiques et à utiliser des matériaux qui sont issus des solutions ioniques. Et ça, elle est quasiment obligée de le faire. D'autre part, les choses poussent, donc ça vous amène naturellement à regarder des structures fibreuses ou des structures poreuses. Si vous regardez l'ingénieur, donc ça veut dire que la nature a réussi à avoir des matériaux d'une infinie variété, en jouant non pas sur la variété des briques, mais en jouant sur la variété des architectures, de la manière dont elle les distribue. L'ingénieur est dans la situation un peu inverse. Il a accès à toute la table de Mendeleïev. Et Dieu sait qu'il s'en est pas privé, il s'est même permis d'en rajouter. Avoir accès à toute la table de Mendeleïev, il n'a pas la même variété des architectures et des microstructures. Donc l'idée simple, c'est de dire si je marie ces deux variétés, ça serait une avancée majeure dans le domaine des matériaux. Mais il faut évidemment adapter les principes, c'est-à-dire ne pas essayer de copier, mais regarder, par exemple, dans tous les matériaux naturels, on réduit la taille des phases fragiles. On essaye de plus en plus de faire des interfaces diffuses. On fait des architectures qui sont hiérarchiques. Il y a des processus auto-guérissants. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ces choses-là pour développer des matériaux artificiels qui est, d'une certaine manière, une bio-inspiration? Maintenant, ça, c'est l'ingénieur qui va reparler en moi. C'est comment, la question que je me pose, c'est comment les produire vite, en grande quantité et à bon marché. D'où la question, est-ce qu'il faut que je les produise par des techniques de bottom-up pour des techniques de top-down? Mon ami Clément Sanchez produit des matériaux biomimétiques en partant de la molécule et des atomes. Il me semble qu'il y a une autre voie possible, pas forcément pour les mêmes applications, qui consisterait à partir du niveau macroscopique et de voir comment je peux assembler des architectures comme ça. La conclusion, une vue d'ensemble du cours. Le leitmotiv, c'est résoudre les contradictions résultant de cahiers des charges de plus en plus contraignants en essayant de faire ce chemin du matériau de rencontre au matériau sur mesure. Ça nous a amené donc à regarder de l'atome au composant, la modélisation multi-échelle, la modélisation intégrée, le choix des matériaux et des procédés avec l'art du compromis, la durabilité des matériaux, y compris dans des conditions extrêmes, l'éco-conception comme une composante importante des problèmes de choix, les matériaux architecturés multifonctionnels et terminer dans l'optique des matériaux bio-inspirés. Alors, je voudrais juste terminer en parlant de la science utilisée ou la science à construire. Je vous ai parlé de trois stratégies pour développer des matériaux innovants. Une stratégie qui s'appuie sur les microstructures, une stratégie qui s'appuie sur les architectures, une stratégie qui s'appuie sur les combinaisons. Il y a de très très nombreux problèmes ouverts de nature très fondamentale. Le couplage thermodynamique et cinétique et des interfaces mobiles. Le comportement de solide maintenu loin de l'équilibre thermodynamique. Le couplage chimie-mécanique dans la tenue environnementale. La physico-chimie des interfaces métal-oxyde-polymère, la mécanique des enchevêtrés, la mécanique continue des échelles intermédiaires, toutes ces questions-là sont des questions qui sont des vraies questions fondamentales et qui sont issues de cette idée de concevoir des matériaux sur mesure et qui paieront en retour, une fois qu'on aura développé ces outils-là, comme outils qui nous guideront dans le développement de nouveaux matériaux. Alors, tout ça, ça nous conduit à essayer de trouver le bon niveau de complexité dans la description des phénomènes. Alors j'ai terminé par deux citations, une qu'on attribue à Paul Valéry, qui est « Ce qui est simple est faux, et ce qui est compliqué est inutilisable ». Et la deuxième citation, vous ne m'entendrez pas souvent le faire, citer un financier, mais si, ça arrive, c'est Warren Buffett, « Better be approximately correct than exactly wrong ». Donc je pense que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel on essaye de modéliser pour faire. Merci beaucoup de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.